Salut les sportifs, c'est Hermano. Vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est LE podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leur rêve. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux, et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille, et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, c'est Hermano. Je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Et comme toujours, j'ai la chance d'avoir un superbe invité que je vais laisser se présenter parce que je pense que tu le feras bien mieux que moi. Eh bien, François, la parole est à toi.
Eh ben, bonjour Hermano, merci de me recevoir sur ton podcast. Bonjour à tous les auditeurs. Donc je suis ravi de participer à ce podcast parce que comme je te le disais donc en off juste avant le podcast, c'est la première fois que je participe à un podcast, que je passe de l'autre côté de d'être interviewé. Donc c'est un grand plaisir de participer à cette interview. Alors pour me présenter rapidement, donc je m'appelle François, je suis originaire de Bretagne, de Quimper exactement, j'ai 32 ans et je suis trailer, ultra trailer. Je vivote un petit peu de l'activité autour du trail avec ma casquette de Facebooker, YouTuber, enfin même si j'aime pas ce mot-là, YouTuber. Je fais aussi des formations en ligne concernant le trail pour progresser en trail. Je fais, enfin voilà, j'ai beaucoup de casquettes, mais toujours autour du trail, de cette passion du trail. Donc voilà.
Cool, bah écoute, merci pour cette présentation. Alors si je ne m'abuse, tu sur les réseaux, tu n'es pas que François.
Alors, je suis aussi La Planète Trail. Effectivement, c'est mon nom de page Facebook, mon nom de YouTube, et c'est un nom qui m'a beaucoup inspiré parce que j'ai mis du temps déjà à le trouver parce que je voulais un nom qui parle du trail, mais de tout ce qui touche autour du trail. Et quel meilleur nom que de parler de la planète comme qui tourne, et donc du coup je parle de tout ce qui tourne autour du trail, et c'est comme ça que j'ai choisi ce nom là alors du coup on m'a associé un petit peu avec le côté écolo, même si moi j'y suis sensible forcément comme tout le monde je pense maintenant en 2020, du moins comme la majorité des personnes sont sensibles à l'écologie ou au moins ont une certaine sensibilité dans un certain domaine. Je pense pas qu'on puisse être 100% écolo, enfin on a tous notre part de non écolo, mais du moins j'essaye de faire aussi ma petite patte en me déplaçant en vélo, enfin voilà. Donc voilà, c'est La Planète Trail, j'aime bien ce nom-là et ouais. J'aime bien.
Bon, bah écoute, je pense que ça recadrera un peu le débat. Peut-être que nos auditrices ou nos auditeurs connaîtront le nom de La Planète Trail et pas forcément de François. Donc voilà, la boucle est bouclée. On a relié les points. Voilà. Comme tu sais, comme je te l'expliquais, François, moi j'aime recevoir dans ce podcast des grands noms du sport, des aventuriers, des artistes, pour parler de leur passion et parler de comment est-ce quels mécanismes ils ont mis en place pour financer leur passion, pour pouvoir vivre de leur passion, pour financer leur vie à travers leur passion, et puis quelle résilience ils doivent faire preuve. Donc première question déjà, c'est j'aimerais savoir comment est-ce que tu as découvert le trail et comment est-ce que tu as basculé dans ça va être le but de ma vie à partir de maintenant, il faut que je fasse tout autour du trail.
Alors, comment est-ce que je suis venu au trail? C'est assez simple. J'étais pompier de Paris pendant 5 ans, donc de 2007 à 2012. Et à la suite des pompiers, moi j'avais qu'un bac S option sport, et avant d'arriver chez les pompiers, j'avais pas de formation particulière. J'ai toujours voulu faire soit prof de sport, soit pompier. Sauf que j'ai été un petit peu victime. Alors, je me place en tant que victime des profs qui me disaient, ouais, Staps, c'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui y vont, très peu d'élus, etc. Et puis j'ai pas eu le caractère à cette époque-là pour passer outre ça et puis pour me dire, bah, s'il y en a qui arrivent, moi, je peux y arriver aussi.
Attends, donc... je te coupe, mais les profs t'ont dit Staps, c'est trop dur, donc t'as pas été en Staps. Mais par contre, personne t'a dit les pompiers de Paris, c'est pire que tout.
Alors, si, mais en fait, la barrière était moins difficile parce que tu passes juste un concours, t'es pris, t'es pas pris. Aller chez Staps, bah, c'est forcément sur plusieurs années, donc. Le lancement n'engage pas la même chose, alors que passer un concours, bon voilà, ça, tu le passes et puis après tu vois ce qui se passe, quoi.
Ok. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, donc je te laisse continuer.
Bien, pas de problème. Du coup, je fais mes 5 années chez les pompiers de Paris, qui se passe bien. Je vais au bout de mon contrat. Fait énormément de rencontres. J'arrive là-bas à 19 ans, donc forcément ça. Je sors de ma petite Bretagne, j'arrive à Paris dans un monde de dingue, donc ça, c'est vraiment, voilà, ça m'a fait mûrir d'un coup, et ça a été une vraie école de la vie et qui m'a appris à faire des choses incroyables, à me dépasser, ça a été une vraie école de la vie. Et donc à la fin de ces cinq années chez les pompiers de Paris, je dois forcément me retrouver un travail et de là est venu un petit peu un parcours du combattant du chômeur qui passe par toutes les possibilités. Alors j'ai voulu faire chauffeur poids lourd, éducateur canin, enfin il y a eu énormément de choses. J'ai voulu faire aussi technicien intervention urgence gaz. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses. Et au final, j'ai atterri en tant que chargé d'affaires télécom. Et pendant cette période de chômage qui a été trop longue pour moi, et ça a duré 8-9 mois, j'étais un geek, mais de chez geek, à jouer donc à StarCraft, pour ceux qui geekent un petit peu. J'y jouais plus de 10 heures par jour. Je passais des nuits blanches, je dormais des fois 3 heures dans la journée, je jouais.
Ah ouais, donc grosse recherche d'emploi.
Voilà. Ouais, non, mais ça a été une période un petit peu sombre. et donc, il a fallu que je me sorte de ça et comment je l'ai fait? Bah, je me suis mis à me remettre au sport, comme c'était ce que je faisais depuis toujours. Et je me suis mis à courir dans les sentiers. Donc à cette époque-là, j'habitais à Nantes. Donc j'allais courir dans les vignes. Et il y avait un trail qui s'appelait le trail du vignoble, du coup, et qui était un trail nocturne de 20 km. Et puis je trouvais ça génial, en fait, de partir à l'aventure avec sa frontale. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais y aller. Et donc je me suis inscrit et je suis vraiment, enfin, je sais pas si c'est là que je suis tombé dans la marmite, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je suis allé au bout et je me suis dit c'est vraiment un monde de dingue, parce que moi je voyais, donc j'avais fait 20 km à cette époque-là, ça me paraissait énorme, et je voyais d'autres personnes qui devaient enchaîner le lendemain avec un 40 et quelques kilomètres, et je me suis dit mais ils sont complètement tarés. Et ça m'a attiré quand même. Je me disais, mais comment ils font pour faire ça? Et puis au fur et à mesure, je me suis réinscrit à un autre trail où j'ai terminé dernier. Je l'ai terminé. Ouais, je l'ai terminé. Je me souviens encore de discuter avec la personne qui était en VTT à faire le VTT balai. Et puis au final, un deuxième, un troisième, un quatrième, en augmentant les distances comme ça progressivement. Et c'est vraiment là que je me suis dit, ouais, c'est vraiment un truc qui m'attire vraiment, ça me met des émotions que je pensais vraiment pas possible. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à tomber dans la marmite.
Ok, donc 2012-2013, quoi.
C'est ça. Bon. 2012-2013, ouais.
Donc ça fait déjà 7-8 ans. Ouais. Bon, écoute, t'es bien dans la marmite. Alors là, tu bouillonnes bien, là, c'est bien parti.
C'est ça. Alors, ça n'a pas été. Je me suis pas investi comme je m'investis sur la Planète Trail, parce que la Planète Trail existe depuis 2017 seulement. Donc, au départ, ça n'a pas été. Je me suis pas lancé sur les réseaux sociaux puis à partager toutes mes aventures. Donc, au départ, ça a été des trails avec un ami. On était tous les deux à aller sur nos distances toujours plus longues. Et puis c'est qu'après qu'est venue la Planète Trail. Ouais.
Alors, juste avant de passer justement sur la planète Trail et puis tous les mécanismes que tu as mis en place après pour essayer de financer un petit peu cette reconversion, j'aimerais qu'on vienne sur ton épisode Pompiers de Paris. Alors, j'ai plein de questions là-dessus. Alors déjà, est-ce que les pompiers de Paris comme les pompiers de Marseille sont militaires ou pas? Comment est-ce qu'on rentre? Donc, tu nous as dit c'est juste un concours, mais est-ce que c'est vraiment juste qu'un concours? Comment ça se passe la vie en tant que pompier? Est-ce que tu te retrouves dans un dortoir un peu comme dans ces séries américaines qu'on voit où les gens ils sont soit dans leur appart, soit tous les uns sur les autres à vivre comme une vraie fraternité. Voilà. Déjà, les premières questions sur les pompiers de Paris, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les pompiers de Paris, tu y rentres effectivement par plusieurs. Enfin, j'ai dit que c'est un concours, mais en fait, tu as plusieurs épreuves. La première épreuve, c'est un entretien avec quelqu'un qui est dans un centre de recrutement de l'armée de terre. Et parce qu'effectivement, c'est l'armée de terre. Et donc, à la suite de cet entretien-là, tu vas passer un concours, donc avec des entretiens, tests psychotechniques français, tests sportifs, voilà. Alors, ça a peut-être changé, hein, parce que moi, je l'ai passé en 2006, le concours. Ouais. Donc, bon, ça nous rajeunit pas tout ça.
Les vieilles claques.
Voilà, prends la gauche. et donc, à la suite de ça, donc à cette époque-là, il fallait attendre les résultats. Tu les avais pas tout de suite. On te disait, voilà, t'as telle note. Enfin, c'était un barème. Enfin, t'avais état 1, 2 ou 3, je crois. Et puis, en gros, si tu étais E1, ben, tu avais juste qu'à attendre. Et à cette époque-là, j'avais attendu 7 mois avant d'avoir la réponse. Donc, c'était en décembre que j'ai passé les concours en avril. Et j'ai eu, avril-mai, bref. Et j'ai eu les résultats en décembre pour rentrer en janvier. D'accord. Donc, je suis rentré en janvier 2007.
Quand voilà. Tu as les résultats, tu rien d'autre à faire, de toute façon.
T'as un mois, ouais. Top, c'est parti, fais ton pactage, on y va.
Allez, c'est parti.
Et donc, quand tu rentres, bah, t'es parti pour. Alors là, à cette époque-là, c'était 2 mois de formation, donc tu fais tes classes militaires, t'apprends tout ce qui est secourisme, et puis ben toute la vie en caserne. Et après, tu partais 4 mois, donc c'était ce qu'on appelait en immersion. Donc, tu pouvais donc prendre uniquement des engins de type donc ambulance, secours divers, et puis faire conducteur des officiers. Et à la suite de ces 4 mois, donc ça te faisait 6 mois en tout. Donc, c'était au bout de ces 6 mois, tu pouvais toujours partir en fait du jour au lendemain comme tu voulais. Et après ces 6 mois, tu faisais la formation pour faire tout ce qui était incendie et puis sauvetage, tout ça. Moi je suis resté. Alors comment ça se passe la vie en caserne que tous les militaires du rang, donc ceux qui sont pas sous-officiers et officiers, sont effectivement dans des chambres collectives. Alors, en fonction des casernes, ça peut être plus ou moins collectif. Tu peux avoir des chambres de 2, 3, 4 à des chambres de 8, 9, 10. Et oui, c'est bien la vie en caserne, c'est de la vie en collectivité. Et celui qui est pas prêt à vivre en collectivité comme ça, vaut mieux qu'il passe son chemin parce que c'est vraiment quelque chose de fort. Mais par contre, ça crée des liens et des amitiés très 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 rapidement, comme j'ai jamais connu ailleurs. Parce que j'ai des amis qui sont encore de cette période-là. Parce qu'on a vécu des choses qui sont extrêmement fortes ensemble, en tant émotionnellement, on a vécu des choses fortes et c'est des choses qui rapprochent en fait les gens de vivre ça. Et comme je dis, en fait, il y a des gens que j'ai pas vus depuis 5-6 ans, que je suis sûr que si je les revoyais demain, j'ai l'impression de pas les avoir vus le week-end dernier, parce qu'on a vécu ces choses-là ensemble.
Ouais. Et alors, est-ce que quand t'es pompier de Paris, tu te spécialises, t'as une spécialité, je sais pas, plongeur, intervention sur le feu, intervention plutôt ambulancière, ou tu es polyvalent et tu dois pouvoir agir sur tout?
Alors, il y a plusieurs casquettes. Il y a les personnes qui, on a tous dans la caserne, on a tous un rôle pour faire vivre la caserne, alors que ce soit ce qu'on appelle le casernement, donc réparer toutes les petits trucs de la caserne, que ce soit la remise, donc l'entretien des engins. Enfin voilà, on a tous une petite casquette comme ça pour la vie de la caserne. Mais pour la vie des pompiers, il y a des spécialités effectivement. Alors on a des spécialités comme le grimpe, donc l'escalade. Il y a le groupe de recherche d'exploration profonde, donc typiquement d'aller dans les dans les tunnels, sur des recherches qui sont très très lointaines, qui nécessitent des équipements très particuliers et des compétences aussi très particulières. Il y a les plongeurs, il y a les personnes qui sont aussi spécialisées dans la recherche bactériologique chimique, donc tout ce qui est risque bactériologique chimique. Et moi, je me suis spécialisé chez les plongeurs. Enfin, du moins, j'ai essayé parce que, en fait, j'avais jamais fait de plongée de ma vie. Je faisais donc en tant que breton, je faisais un petit peu de chasse sous-marine. Mais par contre, j'avais jamais plongé avec des bouteilles. Et donc, j'ai passé les entretiens, les tests, j'ai essayé, hein. Encore une fois, je me suis dit, allez, essaye, tente ta chance. Donc, on était, je sais pas combien à tenter notre chance. On était 12 à avoir été sélectionnés. Donc, j'ai été sélectionné pour faire ça. Donc c'est un stage qui dure 2 mois, qui est en novembre-décembre, et concrètement, donc on était 12 à commencer, on était 6 à terminer le stage.
Okay.
Parce que c'était les 2 mois les pires de ma vie. Et au final, il y en a 5 qui ont eu le stage, et je te laisse deviner qui c'est le 6e.
Alors forcément, si te colle 2 mois de stage en plein hiver, j'imagine que vous plongiez à Paris ou aux alentours, forcément, ça doit aussi un petit peu te démotiver au bout d'un moment.
Ah, c'était vraiment les 2 mois les pires de ma vie. Pour te donner une idée, en fait, on partait le matin dans un bâcher, donc un camion avec une bâche, et puis on partait plonger dans les lacs, effectivement, autour de Paris. Donc on faisait une plongée le matin, on mangeait le midi dans le bâcher. Donc on avait une table dans le bâcher et on laissait sécher en fait les combinaisons au bâcher, on les accrochait comme on pouvait et on retournait en fait l'après-midi plonger, sauf qu'entre-temps les combinaisons avaient gelé. Donc tu devais remettre ta combinaison qui était toute dure, toute gelée. Et c'est extrêmement difficile.
J'imagine. Donc toi, t'as pas eu le stage. Enfin, à l'issue du stage, t'as pas été sélectionné. Donc du coup, tu t'es spécialisé dans quel domaine ?
Alors, donc effectivement, j'ai pas eu le stage parce que j'ai pété les plombs en fait pendant un des exercices. Mentalement, j'ai failli à ma mission. Et on n'a pas le droit à l'erreur hein, dans ces conditions-là, ça se comprend forcément. Si tu dois le faire en vrai, tu dois être quelqu'un de solide qui lâche jamais rien. Donc ça a été, je dis que ça a été les 2 mois les pires de ma vie, mais en même temps ça a été vraiment une expérience encore très très enrichissante et qui m'a beaucoup aidé pour la suite et même pour mes trails, mes ultra trails, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Alors à la suite de ça, en fait, il y a un contrat avec les pompiers, c'est que si tu réussis un stage comme ça, c'est que tu dois 3 ans au moins aux pompiers. Donc moi, j'étais à 4 ans de contrat. Donc si j'avais eu le stage, j'aurais dû re-signer, donc prolonger mon contrat. Et comme j'ai pas eu le stage, bah, j'ai terminé mon année et puis après, je suis retourné en fait dans ma caserne d'origine et j'ai continué à faire les interventions classiques, donc incendie, secourisme, etc.
Ok.
Et après je suis parti.
Oui, donc vous êtes quand même polyvalent au niveau incendie, secourisme et autres. Ça c'est pas une spécialité, vous êtes tous obligés de le faire et vous intervenez tous sur tout type d'intervention
du quotidien.
Difficile de parler aujourd'hui, du quotidien, voilà, merci. Et pourquoi être parti après 5 ans ? Est-ce que tu n'avais plus la fibre, tu n'avais plus l'envie ou c'est un contrat de 5 ans, point terminé ?
Alors, les pompiers de Paris, ça, c'est pompiers, hein. C'était moi ce que je voulais faire depuis tout petit, hein, comme un rêve de gosse, comme beaucoup d'enfants. Mais il y avait cet aspect militaire qui ne me correspond pas et ça plus je grandis et plus je vieillis et plus je me rends compte que
non,
j'ai
plus besoin, tu deviens sage
plus je deviens sage,
plus, sage.
Plus je gagne en sagesse et plus je me rends compte que j'ai besoin de cette autonomie, cette liberté, en fait j'ai envie de choisir mes problèmes et de pas résoudre ceux des autres et de gagner ouais vraiment en autonomie et je supporte très très mal la contrainte en fait et voilà pourquoi je suis parti et parce que il y avait des choses qu'on m'a fait faire que j'étais obligé de faire que je trouvais tellement absurde que au bout d'un moment tu dis stop et puis tu tournes la page quoi.
Alors, moi, je rebondis quand même sur ce que tu disais. Tu dis que plus tu gagnes en sagesse, moins tu as envie de résoudre les problèmes des autres et plutôt de résoudre les tiens. Oui et non, parce qu'avec la Planète Trail, tu accompagnes des trailers, tu fais du coaching. Donc là, tu résous quand même le problème des autres.
Alors, oui, c'est vrai.
C'est on va vrai, trouver un pitch hein, pour ton business.
C'est vrai, mais la différence, c'est que ça, c'est moi qui l'ai choisi de résoudre ce type de problème-là. Et ce type de problème-là, c'est vraiment de choisir en fait de résoudre ce problème qu'ont les gens. C'est un problème très spécifique. Tu vas pas. Et puis en plus, il y a quelque chose qui est incroyable dans cette fonction-là, c'est que si jamais moi, de mon côté, je ne match pas avec quelqu'un et que je sens que je ne vais pas pouvoir l'aider ou répondre à ses besoins et que je suis pas la meilleure personne pour l'aider, eh ben je me permets de dire ben non, ça va pas le faire, je me sens pas en compétence de t'aider, je suis pas la meilleure personne pour t'aider. Je te recommande d'aller voir plutôt telle ou telle personne et j'ai aucun problème avec ça, même si du coup je gagne moins d'argent, mais au moins j'ai cette liberté là en fait de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille.
Ouais, au moins t'es en accord avec tes principes et avec tes valeurs.
C'est ça, et je me mens pas à moi-même et la pire chose ce serait d'accepter une mission et de pas l'accomplir correctement. Et ça, ça se ressentirait, ça se saurait, et moi je me lasserais. Il faut viser long terme. Tu peux pas, quand tu fais du coaching comme ça, tu peux pas te dire, allez, je vais prendre tout le monde, je vais faire ça à la va-vite, parce que au bout d'un moment, les gens qui te font confiance et les gens qui te suivent, s'ils ressentent pas que tu fais vraiment ça par plaisir et par passion et que eh ben, au bout d'un moment, ils arrêtent. Tout se sait dans la vie. Un jour, tu payes de tes erreurs. Et ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Et puis, même moi, si au bout d'un moment, faire ça un an, ça peut le faire. Mais faire ça sur le long terme, ça peut pas le faire.
Bon, et là, on ressent bien la résilience de ces grands noms du sport, de ces artistes. Viser long terme. Alors, on n'est pas dans le court-termiste. Ouais. Ok, donc la fin avec les pompiers de Paris, un peu de gaming, un peu de d'ANPE, Pôle Emploi, c'était déjà Pôle Emploi à l'époque, je crois. Et puis après, tu te trouves un nouveau boulot et comme par miracle, tu tombes dans la bassine, dans le chaudron du trail et tu y restes. Donc tu fais quelques compétitions, tu commences à choper le virus. Comment est-ce qu'après tu passes du trail à l'ultra trail?
Alors c'est venu assez naturellement et puis c'est venu alors quand tu commences le trail tu demandes des fois à ton entourage sur des groupes Facebook comment débuter le trail ou tu regardes des vidéos de mecs comme moi
et on va pas regarder celle de dimanche dernier parce que je crois que c'était pas l'idéal.
Non, c'est sûr que j'en ai un petit peu bavé. Il y a une chose qui revient tout le temps, c'est on te dit faut être progressif. Alors moi c'est ce que j'ai fait, j'ai été très très progressif dans l'évolution, dans l'agrandissement des distances. Et pour moi l'ultra trail c'est à partir du moment, alors ça c'est ma définition, hein, c'est chaque, moi je pense que chaque personne en fait se fait sa propre définition de l'ultra trail. Et des gens qui n'ont jamais couru faire 10 km pour eux ça peut être un ultra trail. Et pour moi c'était de faire le tour du cadran, donc faire un trail qui faisait plus de 24 heures. Et tant que j'avais pas fait ça, je me considérais pas comme ultra trailer, même si dans la définition officielle c'est de faire plus de 80 km. Tant que j'avais pas fait ça, je me considérais pas comme ultra trailer. Et j'ai augmenté les distances comme ça très progressivement chaque année. Soit je faisais donc plus de distances. Enfin, je rapprochais les longues distances, les trails longs. Donc je m'autorisais moins de récupération. Soit j'augmentais un petit cran les distances. Et j'étais très progressif comme ça en montant 50, 60, 80, 100 et je pourrais aller jusqu'à 140. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé jusqu'à l'ultra trail. Ça s'est fait sur 5 ans.
Oui, donc dans la progressivité.
Mais pourtant il y a des gens qui vont pouvoir s'inscrire à un ultra trail au bout d'un an et ça va très très bien le faire pour eux. Et c'est pour ça que chaque personne parce que il y a aussi toute l'histoire en fait qui va derrière les personnes la personne qui est sédentaire, qui travaille assise toute la journée et qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui à 40 ans se dit je veux faire un ultra trail, bah forcément elle va pas passer par le même chemin que la personne qui a toujours fait du sport, alors quel que soit le sport, qui s'est toujours bougé, qui a un travail qui est physique. Donc forcément ces deux personnes-là vont s'ils veulent toutes les deux se mettre en même temps au trail et faire un ultra trail, bah forcément le chemin va pas être le même. Et ça, c'est l'individualisation qui permet ça et les conseils individualisés qui on a tous notre histoire et c'est ça qui est passionnant dans l'accomplissement de ces objectifs-là.
Alors c'est ça qui est impressionnant, c'est que tu as pris l'exemple de quelqu'un qui est sédentaire, qui est toujours resté dans son canapé, et puis à 40 ans, il se décide de faire un ultra trail. Bon, peut-être qu'il s'inscrira du jour au lendemain. Peut-être qu'il prendra le départ et fera les premiers kilomètres et qu'après il va en chier pour parler crûment, mais à mettre en parallèle avec quelqu'un qui a toujours fait du sport toute sa vie et puis qui va pouvoir à mon avis s'en sortir un peu mieux. Toi, t'avais fait du sport déjà toute ta première partie de vie et t'as quand même observé une progression assez tranquille, assez linéaire sur 5 ans et tu t'es pas jeté dans l'ultra trail du jour au lendemain.
Oui, alors les sports que je faisais, je courais pas énormément. Alors je faisais des footings, je courais un petit peu quand même, mais je courais pas énormément. Je faisais beaucoup plus de renforcement musculaire. J'étais à fond sur la méthode Laffey. Pour ceux qui connaissent, je suivais ces programmes de renforcement musculaire de façon très 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 spécifique et très régulière et vraiment très carrée. Et j'étais pas vraiment dans la course à pied, du moins toute la période jusqu'à arriver au trail. Même avant les pompiers, quand je faisais du foot, mais j'étais gardien. J'ai fait du tennis de table aussi pendant 5 ans, donc c'est pas non plus le sport où tu cours beaucoup.
Ah, puis c'est explosif.
Voilà, en plus j'étais plutôt voilà, et même quand je suis passé sur le terrain en foot, j'étais attaquant. Et c'était les petits clubs, tu sais, où t'as l'ancien derrière qui tape le ballon et puis qui dit aux jeunes devant, vas-y, cours mon grand.
Allez, cours, va le mettre dans la cage.
Voilà. Et puis j'étais ce gars-là qui courait vite, mais par contre, sur tout un match entier, je tenais pas. Donc j'avais vraiment pas d'endurance. Et c'est pour ça que, en plus, je suis asthmatique. Donc je suis asthmatique, je suis asthmatique léger. Donc j'ai dû composer avec ça. Alors ça va beaucoup mieux du coup l'asthme grâce à la course à pied notamment, mais j'ai dû composer avec ça, ouais.
Ouais, dans un épisode du podcast de Nakan, on recevait Greg Runner, je suppose que tu connais dans le trail et l'ultra trail, et effectivement il nous disait que la définition de l'ultra trail est propre à chacun. Je rebondis un peu sur ce que tu disais, mais lui il considère parfois qu'un ultra trail commence à 50 bornes, 60 bornes, parce que ce n'est pas que la durée ou que la distance, c'est aussi toutes les conditions qui vont avec. C'est sûr que 50 bornes où tu te tapes un 10 000 de D+, ça va pas être la même chose qu'un 50 bornes tout plat.
Ah bah c'est sûr, ça c'est évident. Et puis on doit composer justement avec le terrain, les conditions météo, notre forme du moment. Enfin voilà, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et tant qu'on n'a pas fait, on ne sait pas en fait quelles vont être ses propres contraintes. Et c'est pour ça que le trail, comme beaucoup d'autres sports, hein, bon là on parle de trail, mais c'est aussi vrai dans d'autres sports, c'est vraiment de l'apprentissage par l'échec. Et tant que tu échoues, tu vas prendre tes erreurs. Mais il y a beaucoup trop de gens qui n'osent pas aller se confronter justement à se mettre un petit peu en danger et puis à aller potentiellement échouer parce que pour tout un tas de raisons, peur du regard de l'autre, du jugement, de se décevoir soi-même. Et ça, je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Donc moi, j'incite tous tes auditeurs à se lancer dans les défis qu'ils ont vraiment envie de faire et puis à y aller, quoi, tout simplement.
Bah écoute, le message de sagesse qu'on aurait presque pu mettre en conclusion de l'épisode.
On le redira à la fin si tu veux.
On le redira à la fin. Ou peut-être que tu auras d'autres idées. ok, donc là, on a fait un bon tour d'horizon déjà sur toi, qui tu es, comment tu as découvert le sport. C'est vrai moi, je voulais t'inviter pour parler de cette facette de toi qui vit ou qui va vivre du trail et de l'ultra trail. Donc on va revenir un petit peu plus sur cette partie-là, même si on ne peut pas te classifier dans les sportifs de haut niveau, hein, j'en ai eu quelques-uns, j'ai eu aussi des artistes, donc voilà, j'étends mon panel d'invités. Pour revenir sur toi justement et sur sur le trail, comment est-ce que tu envisages la suite de ta vie avec le trail, autour du trail? Comment est-ce que tu finances ta vie là-dessus? Est-ce que tu peux nous donner quelques-uns de tes conseils? Comment est-ce que tu fais pour vivre du trail?
Alors, déjà, je pense que c'est intéressant de revenir à l'origine et de voir comment est-ce que j'ai découvert qu'on pouvait vivre de, ou du moins gagner de l'argent via Internet. Je sais pas trop comment ça se fait, mais sur YouTube, via les recommandations, je suis tombé un jour sur les vidéos d'Olivier Roland, qui dit que, enfin, lui, son credo, c'est de vivre de son blog. Mm-hmm. Alors, j'ai découvert ce monde-là.
Sous ses formations,
voilà. J'ai découvert ce monde-là, du coup, il y a 3 ans. Et pourquoi est-ce que je suis tombé là-dedans? Parce que, en fait, il y a 3 ans, donc j'ai eu mon petit garçon. Et quand ma femme a dû reprendre le boulot, ça a été un très grand déchirement en fait pour elle de devoir le laisser à 1 mois et demi à une nounou, même si c'était une nounou qui était formidable. Et là, je me suis dit en fait, il y a quelque chose qui est pas normal. En fait. Enfin, c'est étonnant de quelle autre civilisation aussi développée soit-elle. Laisse ses enfants d'un mois et demi à d'autres personnes qu'il ne connaît pas. Donc moi, j'ai eu du beaucoup beaucoup de mal à ce moment-là, et je me suis dit le modèle actuel dans lequel je suis de travail, donc avec mes horaires de bureau, ça peut pas le faire sur le long terme.
En tant que salarié, hein.
Voilà, de salarié. Et j'ai envie de faire autre chose, de pouvoir vivre autrement. Et c'est de là que je me suis intéressé à tout ce milieu de vivre sur Internet. Quand on tombe là dans ce monde-là, on est tout de suite mis face à toutes les personnes qui te promettent monts et merveilles en travaillant une demi-heure par demi-journée.
Ah bah oui, la semaine de 4 heures, voilà. Le week-end de 7 jours.
C'est ça. Donc je suis tombé dans. Enfin, j'ai lu tout ça. J'ai lu tous ces livres de développement personnel, tous ces livres de business que tout le monde recommande, qui ont été père riche, père pauvre. Enfin, j'ai lu tout ça. Et ça a été quand même quelque chose de formateur pour moi, parce que ça m'a prouvé quand même que j'étais, même si je l'avais déjà un petit peu compris et intériorisé, que j'étais fait pour être entrepreneur et vivre de comme je l'entends. Donc depuis un chemin, parce que là aujourd'hui je le dis comme ça, mais c'est pas venu du jour au lendemain. Et au départ, je me suis dit y a moyen de gagner un petit peu d'argent sur Internet. Le trail, ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher. C'est pas non plus un des sports qui coûte le plus cher, mais c'est quand même un billet pour une famille. Surtout si, comme moi, tu veux faire beaucoup de trail dans l'année, c'est quand même un budget.
Ouais, surtout si tu habites en Bretagne. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de montagnes en Bretagne, donc j'imagine que les trails, c'est compliqué.
Il n'y a pas beaucoup de montagnes, mais par contre, on peut faire en restant en Bretagne, on peut faire un trail tous les week-ends. C'est une terre de trail, la Bretagne. Et alors, même si c'est pas, ça, il y a pas de très très grands noms, très grands ultra trail ou trail qui sont très connus dans le monde et qui sont en Bretagne, mais on a quand même beaucoup de trail. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire subir ça à ma famille. C'est un peu mon problème de vouloir faire toutes ces aventures. Donc j'ai envie de gagner de l'argent et que cet argent serve à me payer mon matériel, à payer mes voyages, à me payer tout ça. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à rentrer dans ce monde de financer en fait cette passion.
Ok, donc à la base c'est financer une passion, oui. Et puis là depuis quelques mois, quelques années, ça va plutôt être financer ta passion et financer ta vie en fait.
C'est ça. Alors, financer sa passion, finalement, on peut penser que c'est
non,
compliqué.
Non, en fait, le mec est un salaud, il vit au crochet de sa femme. C'est... Je couperai au montage, c'était juste pour la remarque.
Tu peux ne pas couper au montage, c'est pas un problème. C'est vrai que ça pourrait être assez facile hein, de tomber là-dedans, et puis, mais Mais je pense que madame, elle tirerait les oreilles assez rapidement.
Ouais.
Elle se laisserait pas faire. Et...
C'est pas grave, tu cours plus longtemps qu'elle.
Ouais, c'est ça.
Non, je disais donc, revenons un petit peu au sérieux, donc au début, tu payais ton matos, maintenant, c'est un peu plus que payer simplement ton matos.
Voilà, alors je disais que c'est vrai que financer son matos, c'est assez simple, ça vient assez rapidement pour peu qu'on ait vraiment envie de s'y mettre à fond. Parce que les marques et les sponsors envoient du matériel assez facilement. En fait, au début, il suffit de parler de son matériel qu'on a soi-même, de monter une petite communauté. Et puis très rapidement, donc en moins d'un an, tu peux avoir des marques comme ça qui t'envoient du matériel pour que t'en parles. Si pour peu que tu fasses bien le boulot, au bout de même pas deux ans, tu as trop de matériel, tu peux plus même faire ça tout seul. Donc ça vient assez vite d'avoir ça. Mais pour autant, en fait, dans le trail, il n'y a pas non plus énormément d'argent et tu vas pas, enfin, les marques vont pas te payer pour que tu parles de ça. Donc, la seule source de revenus, finalement, c'est l'affiliation et la revente à la limite du matériel que t'as eu et dont t'as pas besoin. Mais ouais,
c'est vrai qu'au bout de 15 paires de bâtons, au bout d'un moment, tu vas pouvoir en revendre une. Mais bon, une paire de bâtons, ça te paye pas. À la limite, ça paye la crème, mais ça paye pas les pâtes.
C'est ça, exactement. Donc, ça te laisse pas non plus énormément de choses pour, enfin, énormément d'argent pour en vivre. Et, du moins, faut vraiment baser son business uniquement sur le trafic et sur la pub et c'est vraiment des compétences qui sont particulières. On parle de SEO pour faire connaître son site sur Google, sur voilà. Moi, c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. Je me disais que c'était pas finalement je vivais pas de mes propres produits mais des produits des autres. Et c'est comme ça que je me suis dit j'ai quand même depuis 5 ans maintenant j'ai passé une formation aussi de préparateur mental dans le cadre des pompiers, j'avais ma casquette aussi de coach sportif, donc je me suis dit finalement quel meilleur moyen tu peux aider les gens à passer des blocages, à progresser dans leur domaine, c'est de faire des formations en ligne. Je me suis mis à faire des formations en ligne et j'y ai pris beaucoup de plaisir à faire ces formations, à les tourner, à avoir des retours, à les supprimer, à les refaire. Et c'est comme ça que j'ai monté un petit peu ce business-là. Et voilà. Donc, j'ai commencé là-dedans. Et par contre, pour l'avenir, il y a d'autres projets.
Ah, tu les gardes secrets, tu veux pas nous en parler pour l'instant?
Non, je peux en parler. J'attendais que tu poses la question, ou alors si tu voulais rebondir sur d'autres choses. Donc, non, en fait, là, je suis en train de développer un jeu, parce que du coup, j'ai ma casquette de gamer qui est revenue par là, couplée à ma casquette de coach. Et je me suis dit, comme on est en train de gamifier un petit peu toute la société, que ce soit l'apprentissage des langues, l'apprentissage en général, même de toutes les matières scolaires.
Encore plus en cette phase de Covid où les gamins, ils sont beaucoup à la maison et beaucoup. Moi, je l'ai vu avec mon fils de 11 ans. Même quand il va à l'école, maintenant, ils sont équipés d'une tablette. Enfin, le numérique a pris une part extrêmement importante depuis cette phase Covid.
C'est tout à fait vrai. Et puis, on est en train de gamifier un petit peu toute la société. Et puis, la gamification, ça appuie en fait juste sur des leviers psychologiques humains qu'on a et qui sont en nous. Et mais autant l'utiliser à des fins positives pour l'être humain. Et je me suis dit, il y a des leviers à actionner pour que les gens, en fait, s'entraînent, fassent des entraînements. Et donc, je développe un jeu avec un ami autour du trail. Alors, c'est un jeu en ligne, forcément, où à chaque fois que les personnes iront s'entraîner, accompliront des défis, des challenges, ça leur apportera des points. Et ça les fera monter comme ça un petit peu dans le jeu. Donc on est en train de développer ça et ça devrait arriver normalement début 2021 au plus tard.
Waouh, bon bah écoute, moi personnellement j'ai hâte. Je suis pas gamer mais je ferai une exception. Je suis plus gamer. J'ai joué pendant quelques mois, je me suis rendu compte que j'allais dans le mur, donc il fallait que j'arrête et du coup je suis passé à autre chose.
t'as eu un ange qui est passé par là et qui t'a tiré les oreilles aussi.
C'est ça, oui, bah, c'était ma maman, tu vois.
Ah.
ok, donc effectivement, on voit bien que d'une vie dans le civil, pour ainsi dire, à une vie de militaire, et puis retour à la vie civile, découverte du sport, et finalement, c'est un peu comme, je ne sais pas si tu connais Bertrand Soulier avec son podcast Kilomètre 42, c'est exactement ce vers quoi il s'oriente aussi, c'est-à-dire devenir sportif professionnel, mais sans être sportif de haut niveau ou de très haut niveau. C'est vivre, ce qu'il entend par sportif professionnel, c'est vivre de son sport, par son sport et pour son sport. Voilà, je pense que c'est
Il y a beaucoup de trailers qui font ça, hein, comme François Daen qui est vigneron, mais il vend son vin à qui ? Il vend son vin à des trailers, à des voilà. C'est un moyen de communication pour lui, en fait, d'être un élite du trail. On a Sylvain Cusseau qui est aussi une très très bonne traileuse française qui travaille chez Iron, donc le leader du commerce en ligne d'équipements trail running et fitness. Ouais. Enfin voilà, il y en a plein comme ça qui vivent du trail, mais indirectement en fait. Et être élite et vivre que de ça, c'est actuellement pas réalisable, du moins pour. Enfin voilà, on vit pas que de ça. Il faut avoir une autre casquette, Et des gens comme moi en fait arrivent à mieux vivre du trail que certains élites.
Oui, on le voit. Je pensais par exemple à Johan Stuck qui a très vite diversifié ses activités, notamment créé des marques de textiles et autres, parce que vivre uniquement de la peur d'avoir un sponsor, du plaisir d'avoir un sponsor ou de la peur de le perdre à la fin de l'année et puis repartir tous les 6 mois en quête d'un budget, c'est pas, non seulement c'est pas viable, et puis surtout dès que tu commences à perdre une course. Ça se comprend, les sponsors sont plus forcément aussi intéressés qu'ils l'étaient avant. Et de toute façon, comme tu le disais, c'est une vision qu'il faut avoir à long terme. Je pense que être trailer élite ou même être sportif d'endurance élite, ça va bien pendant quelques années, mais passer 45-50 ans, ça commence à devenir un peu plus difficile.
Tout à fait. Et en fait, un élite, selon moi, devrait voir sa casquette d'élite comme un moyen de communication et un moyen de diffusion de son message ou de ses produits. Et s'il voit ça comme ça et qu'il se dit qu'est-ce que je peux créer, quelles autres compétences j'ai pour créer un produit, créer quelque chose à vendre, et de voir cette casquette d'élite comme un moyen de communication et de diffusion de son message, et ben tout de suite ça change la donne. Et si on se dit pas je suis élite, je dois attendre des autres qui viennent m'apporter une rémunération. En fait, d'être acteur de ça et de créer des choses et de les vendre, ça change un petit peu toute la façon de penser, plutôt que d'attendre en fait que ça vienne des autres et d'être dépendant des autres. Et si on est dépendant d'une seule ou deux personnes et que cette personne-là décide du jour au lendemain de plus nous suivre, tout de suite on est dans la mouise. Alors que si on a nous ses propres produits et que finalement être élite c'est un canal de communication, et des canaux de communication il y en a d'autres, et puis une communauté, même si on est blessé, elle nous abandonne pas du jour au lendemain comme ça. Donc les élites devraient voir ça comme ça, à mon avis. Ouais.
Bon, écoute, deuxième message positif, deuxième transmission. Donc tu nous as fait une deuxième conclusion dans l'épisode, c'est nickel. en tout cas, j'aime bien cet épisode qu'on a fait complètement à l'envers. Sur les sportifs de haut niveau, sur les sportifs élites que j'ai déjà eu, effectivement, ce sont des gens qui ont aussi cette clairvoyance, cet état d'esprit de dire « Ok, je suis sportif, je vis pour et par mon sport, mais pendant que j'y suis, j'utilise la notoriété que j'ai acquise pour me lancer dans autre chose ou pour projeter autre chose plus tard. » Et notamment, j'avais Laura Auger, ancienne nageuse artistique. Nageuse de natation synchronisée qu'on appelle maintenant la natation artistique, qui disait que elle, c'était son problème, c'est que les nageuses artistiques, elles passent 9 à 10 heures dans l'eau par jour. Et donc, quand tu passes 9 à 10 heures dans l'eau par jour, malheureusement, tu ne peux faire que attendre que quelqu'un te verse un salaire ou que quelqu'un te sponsorise, te subventionne, parce que ils n'avaient pas la possibilité, ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas l'énergie pour faire autre chose à côté. Et elle s'en est mangé les doigts, quand elle a arrêté sa carrière. J'aime bien ce changement de vue, ce changement d'angle sur cet épisode, puisqu'on n'est pas parti d'un sportif élite qui pense à la reconversion, on est plutôt passé de quelqu'un qui est dans le civil et qui se reconvertit dans le sport. Donc merci pour ça, merci pour cette fraîcheur, merci pour ce nouvel angle que tu apportes à ce podcast. Je savais qu'on ferait un superbe épisode.
Avec plaisir.
je vais pas te prendre trop de temps, puis le temps file. Par contre, il y a un exercice que j'aime bien sur mon podcast, c'est poser quelques questions rapides à mon invité. Questions rapides, oui, toi tu peux répondre comme tu veux, tac au tac, ou alors prendre le temps pour répondre. Est-ce que tu veux bien te plier à l'exercice?
Eh ben allons-y.
Allez.
Alors je précise quand même pour les auditeurs que j'ai pas eu les questions avant, hein, parce que
ah ben non non, moi je
on pourrait penser que j'ai eu les questions avant et que je les ai préparées, mais il y a rien qui est préparé. Alors allons-y.
Je tiens à le préciser, c'est aussi ma marque de fabrique, c'est que non seulement je ne prépare rien avant les épisodes parce que je me mets justement dans l'état d'esprit de l'auditeur qui ne connaît pas mes invités et je veux que ce soit presque la même chose, même si par la force des choses, des gens que j'invite, je me suis quand même renseigné un peu sur, mais je ne prépare pas l'épisode et je ne prépare pas les questions et je ne t'envoie pas les questions non plus parce que je veux que ce soit spontané. Écoute, ben, première question toute simple, si tu pouvais parler à, si tu pouvais te transformer en un tout petit François et te parler à l'oreille du François de 18-19 ans avant que tu intègres, enfin avant que tu te poses la question d'intégrer les pompiers de Paris, qu'est-ce que tu te dirais?
N'écoute pas les gens, ose.
Génial, ouais. Génial. Et puis, le corollaire à cette question, c'est si tu pouvais te transformer en un petit peu plus grand, François, parce que tu étais déjà un peu plus grand, mais quand tu sors des pompiers de Paris, quand tu découvres le trail, tu sais pas encore que tu vas te lancer là-dedans, mais tu sais que t'as chopé le virus, t'as chopé un truc, ça t'excite de te rendre sur le départ d'une course de trail. Qu'est-ce que tu te dirais?
Alors, je me dirais, voie long terme, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait voir long terme, c'est pas quelque chose que j'ai appliqué, que j'ai toujours appliqué. J'ai eu une période où j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome de l'objet qui brille. Dès que je voyais quelque chose qui brillait, hop, j'y allais, et puis je papillonnais un petit peu comme ça dans plusieurs projets. Et là, je me dirais, voie long terme, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu te vois faire sur le long terme, et fais-le chaque jour.
C'est ça, c'est ta casquette de préparateur mental qui parle, non?
Peut-être, ça en fait partie, et puis ça fait partie aussi de mon histoire, parce qu'en fait, tout ce que je fais, je suis un peu un extraterrestre dans ma famille, c'est que le côté entrepreneur, le côté sportif, enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'ai hérité, donc c'est quelque chose que j'ai construit moi-même avec mon histoire, la casquette de préparateur mental, et puis aussi de personnes qui s'intéressent beaucoup aux gens. J'ai toujours eu cette, tu sais, en soirée, il y a plusieurs profils, il y a des gens, qui rentrent dans la pièce, tu les remarques tout de suite, il y a celui que tu vois pas jamais et que tu t'en souviendras jamais, et moi je suis celui qui reste dans un coin et qui observe les gens et qui écoute et qui et voilà et ça j'ai toujours été comme ça. Même si j'ai ma casquette de youtubeur où voilà je me filme, il y a un petit peu d'ego qui se met là-dedans, en soirée en réalité je suis pas comme ça en fait à me mettre en avant, et donc à force d'écouter les gens, d'essayer de les comprendre et puis du coup d'appliquer en fait les erreurs des autres pour moi. C'est un petit peu tout ça en fait qui a fait que j'en viens à dire ce que je dis aujourd'hui, et puis peut-être que dans 10 ans je dirai complètement l'inverse, je sais pas.
Bon, va falloir vraiment que je vienne te voir, hein, peut-être en courant ou autre, mais va falloir qu'on se rencontre. Je pense qu'on a beaucoup d'atomes crochus. Moi aussi j'adore me mettre en soirée, regarder les gens, observer. Ouais. Alors des fois j'en rigole aussi, tu sais, c'est marrant quand t'essayes de faire du doublage son. Oui. Tu vois deux personnes qui discutent et puis tu entends pas ce qu'ils disent, mais tu t'amuses à faire ça. Bon bah écoute, c'est cool. Autre question, qu'est-ce que c'est pour toi un bon sportif?
Ah, c'est intéressant.
Ou une bonne sportive, je suis plutôt sur l'inclusion homme-femme.
Ouais, voilà. Ouais, on va pas commencer à faire des débats.
Pas de quota, machin.
Non, bien sûr. Qu'est-ce que c'est un bon sportif? Ah, c'est intéressant comme question. Alors, pour moi, ce serait un sportif qui se donne les moyens d'aller là où il a envie. Parce que un sportif qui est élite, il a choisi d'être élite, mais un sportif qui est juste là pour se faire plaisir, il l'a aussi choisi. À mon avis, il y a toujours cette chose que les gens se disent, ah oui, il est élite, mais en même temps, il a la génétique pour lui. Moi, je crois Je crois en ça. C'est vrai qu'il y a une part, hein, forcément, de génétique, mais il y a aussi une très très grosse part de travail et de discipline et de pendant que les autres sont en soirée, lui, il est soit en train de dormir, soit en train de s'entraîner. Et un bon sportif, c'est quelqu'un qui vivrait comme ça à fond, comme il a envie de le vivre, en fait, je pense. Bon, c'est un petit peu perché ce que je raconte, mais.
Ah, moi, ça me parle, ça me va. Écoute, j'avais encore jamais posé cette question-là à mes invités, mais je pense que je vais la garder et je pense que j'aurai des perles. Ouais, difficile. Dans une autre question, peut-être difficile ou pas, à toi de voir, mais si tu devais réécrire le livre de ta vie, quelle page, quel chapitre, quel paragraphe tu changerais?
Je dirais le collège.
Le collège,
ça a été une période un petit peu douloureuse pour moi, cette période de l'enfance. Je dirais le collège parce que ça m'a pas solidifié pour autre chose. Enfin voilà, il y a des périodes de la vie comme ça qui sont dures, comme je t'ai raconté tout à l'heure au niveau de par exemple quand j'ai fait les plongeurs à Paris. Mm-hmm. Mais ça a été dur, mais j'en ai retiré quelque chose. Alors que là, j'ai pas l'impression d'en avoir retiré quelque chose. Alors c'est peut-être inconscient ou quoi, mais ça a été une période difficile de ma vie et j'ai pas l'impression d'en avoir retiré quelque chose. Je pense que j'en suis sorti de cette période difficile grâce au lycée et grâce à des rencontres merveilleuses que j'ai fait pendant le lycée. Donc ce serait ça, ouais, ce serait le collège.
Un paragraphe en moins dans ton livre alors.
Voilà.
Et le livre qui est à peine écrit, parce que on l'aura bien compris, tu t'engages dans un changement de vie, donc tu vas encore écrire plein d'autres paragraphes.
Oui, et je suis même en train d'écrire un livre, un vrai livre qui s'appellera Deviens ultra trailer. Et je l'ai beaucoup écrit pendant cet été, pendant mes vacances. J'ai bien avancé dessus depuis début septembre. J'ai un petit peu mis ça en stand-by, mais j'espère pouvoir le sortir en 2021. Si j'arrive à me discipliner et puis à l'écrire chaque jour un petit peu.
Alors écoute, moi j'ai un conseil à te donner. Tu vas sur Amazon, tu tapes Bertrand Soulier, auteur. Il a enfin publié son livre qui s'appelle Le contenu minimum viable. Et en 90 pages, 93 je crois exactement, il te donne quelques conseils pour aller au bout et surtout pour lancer ton premier contenu minimum viable. Donc ton livre, même s'il n'est pas fini, vas-y, à fond.
Balance. merci. Je vais aller checker ça juste à la fin de notre échange, évidemment.
Ça marche. Écoute, une question plus simple, la dernière. C'est un peu le passage de témoin de ce podcast. S'il y avait une sportive, un sportif, un pompier, un militaire, enfin quelqu'un que tu trouves inspirant, que tu aimerais entendre sur ce podcast, est-ce que tu aurais des noms à nous balancer?
Alors, dans les échanges que j'ai faits, il y a donc un Stéphane Brognard qui était vraiment, vraiment très, très, très inspirant, qui était...
On s'est raté, mais j'aurais dû l'avoir.
Ouais, je te recommande vraiment de réussir à avoir un échange avec Stéphane, parce que c'est quelqu'un de vraiment très très spirituel aussi, qui se pose beaucoup de questions sur la vie, sur les choses, sur le sens des choses, sur voilà. Donc qui a toujours
très perché aussi. Hein. Il est passé dans Extraterrien notamment.
Ouais,
il est un peu barré, mais il donne vraiment envie.
Ouais. Et ce que j'aime bien, moi, c'est les personnes qui sont un peu clivantes, tu vois, qui vont pas plaire à tout le monde, qui vont dire des choses qui dérangent parfois, mais qui vont le dire quand même. Je dirais Stéphane Brognard.
Ok. Dans ce même genre de personnes un peu clivantes qui dérangent, mais qui le disent quand même, parce que de toute façon, elles estiment que c'est nécessaire, tu as le docteur Denis Boucher, je ne sais pas si tu connais.
Non, je ne connais pas.
Écoute, une autre reco, allez voir, docteur Denis Boucher, où tu vas sur Nakan, sur notre podcast.
D'accord.
On l'a déjà reçu à 3 ou 4 fois, et notamment Bertrand Soulier l'a reçu il y a 2 ou 3 semaines. C'est très, très inspirant aussi.
Ok.
Je pense que ça devrait te plaire.
Ok, je vais aller voir ça, je note.
Docteur en médecine expérimentale au Canada, à Québec, qui travaille beaucoup notamment sur l'endurance. Et ça te parlera peut-être, mais un de ses livres, c'est Courir lentement pour courir plus longtemps
et
plus vite.
Ah oui, bien sûr. Oui, ça me parle.
Ça, ça te parle? Voilà. Mmh. Bon, bah écoute, il est à écouter. Il n'est pas uniquement à lire, il est aussi à écouter parce qu'il est juste exceptionnel.
D'accord.
François, merci beaucoup pour ton temps, pour ce partage, pour tous ces échanges qu'on a pu avoir. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu penses absolument nécessaire de rajouter pour conclure? Parce qu'on a fait deux conclusions pendant le podcast, il faut bien que tu en trouves une troisième.
Non, alors j'ai pas d'autres conclusions que celles que j'ai faites, si ce n'est de te remercier de m'avoir invité, Hermano. C'était vraiment très très agréable cet échange. L'exercice est sympa. merci pour ton boulot, parce que je sais pour aussi le faire un petit peu que ça demande énormément de temps. Je ne sais pas si les auditeurs s'en rendent compte, mais en même temps, comme je dis, ils n'ont pas besoin de s'en rendre compte. Ils ont d'autres problèmes à gérer. Donc merci à toi de recevoir toutes ces invités, de donner du temps, de faire ça avec beaucoup de bienveillance et d'empathie, et voilà, donc de le faire correctement comme tu le fais. Donc merci pour ton travail, c'est tout, ce sera
merci.
Ma conclusion.
Voilà. Alors les auditeurs le voient pas, mais je suis en train de devenir tout rouge, hein. Je suis plutôt pâle par rapport à toi dans notre conférence vidéo, mais voilà, je deviens tout rouge. Bah écoute, merci encore. Allez, juste avant de te laisser partir, il faut quand même que tu nous dises où est-ce qu'on te retrouve. Alors j'imagine la Planète Trail sur tous les réseaux, mais plus spécifiquement un site, une chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn.
Alors effectivement, c'est La Planète Trail sur Facebook. Je suis assez actif sur Facebook. YouTube aussi. Donc tous les mercredis soirs, 20h30, je fais un échange en live. Donc les auditeurs peuvent venir poser leurs questions à mes invités. Donc sur ma chaîne YouTube, La Planète Trail. Sur Instagram, La Planète Trail aussi. Sur mon site, c'est planettrail.com. Il n'y a pas le là. Okay. Donc voilà. Et puis bientôt, donc tous mes échanges qui sont diffusés en live le mercredi soir seront disponibles en podcast, dans un podcast qui s'appellera Café Trailer. Parce que ça a été quelque chose qui m'a été beaucoup demandé. En fait, les gens n'ont pas toujours une heure ou voire plus à accorder en restant devant un écran. Donc, on m'a demandé la version podcast. Donc, je suis en train d'y travailler. Donc, ce sera très, très bientôt disponible.
Ouais, génial. Je me frotte les mains. J'ai hâte d'écouter ça aussi pendant mes longues sorties, parce que moi aussi, je vais me mettre à faire du trail, de l'ultra trail, sans que ce soit vraiment de l'ultra trail. Mais bon, on a eu l'occasion d'en parler en off. 2022 sera une grosse année ultra trail pour
voilà.
Moi. Écoute, merci encore. Je te souhaite bonne continuation. Et puis, on va suivre avec attention non seulement tes ultra trails, tes petites séances de formation, tes mails quotidiens aussi, alors qu'ils sont un peu moins quotidiens, mais tes mails réguliers. Et puis, à la sortie de ce jeu, hein, tu vas peut-être nous faire redevenir tous des gamers en étant des trailers.
Il s'appellera World of Try.
Génial. Donc, il faudra trouver un truc pour qu'on puisse y jouer en courant. Hein, pas mal. Ou alors, tu le colles sur des tablettes que tu mets dans les zones de ravito des ultra trails. Hein. Joue ta partie et puis on verra qui a gagné à la fin, pas uniquement sur la course, mais aussi sur la partie de jeu.
Non, ça peut être une idée, ça, d'ailleurs, de mettre un défi sur telle course. Tu réussis à faire le meilleur chrono sur telle course, ça te rapporte des points dans mon jeu. Ça, ouais. c'est un truc, ça, tu viens de me donner une idée.
Bah voilà, tiens, voilà. Je t'avais dit qu'on allait trouver un truc. Bah écoute, François, merci encore. À bientôt.
Avec plaisir, à bientôt et bonne journée à tous les auditeurs.
Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs. Ok, attends juste deux secondes, je couperai ça au montage. J'ai ma femme qui vient pour me demander de signer des papiers.
Bonjour madame.
Mon invité te salue, François te salue.
Désolé.
Ah bah y'a pas de problème, c'est les aléas du direct.
C'est ça, c'est le problème d'être en télétravail. Au bout d'un moment, tu fais péter les frontières entre boulot, maison, famille et tout. Bon, donc reprenons, je couperai tout ça au montage.